السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي الكرام، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. أشكر الله عز وجل على ما من به من الحضور بينكم ومعكم، وأشكركم أيضا على حسن ظنكم بمثلي واستضافتكم إياي، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذه الدنيا تحت طاعته أن يجمعنا وإياكم في أعلى فراديس الجنان. ثم لا أخفي عليكم سروري وفرحتي لتواجدي فيما بينكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث ألف بين قلوبنا وجمعنا في بيت من بيوته نتذاكره ونزداد بإذنه علما. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وكذلكم التوفيق. Je remercie Allah تبارك وتعالى de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Et je vous remercie aussi de votre bonne opinion envers moi et de cette invitation que vous m'avez proposée et à laquelle j'ai répondu. Frère, je ne cache pas ma joie à vous et mon contentement d'être parmi vous aujourd'hui dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah Azza wa Jal nous a réunis ici-bas ensemble sous son obéissance, nous lui demandons de nous réunir dans les plus hauts degrés du paradis. Et on dit pas Inch'Allah, on dit Amin. Hein, hadith, il y a un hadith où quand on invoque Allah, on dit pas Inch'Allah, wa liya'zam fi talab. Faut être ferme dans la demande. Wa la yakilu الطلب إلى المشيئة. Parenthèse. Là, je me suis perdu ça. Al-Muhim, on est donc ici ensemble, Inch'Allah, sous son obéissance, sous l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, pour parler au long de cette journée, bi'idhnillah, à travers trois conférences sur des sujets très importants. عنوان كلمتنا الآن هي أو هو من هم السلف. Qui sont les salaf? C'est un mot qu'on entend très souvent, notamment aujourd'hui. On l'entend même dans les informations, dans la bouche des journalistes. وكل من هب وذب صار يعرف هذه الكلمة تعاريف غير لائقة. Et n'importe qui vient et se met à définir ce terme de définition qui ne sont pas correctes à la réalité. وصارت عادة العلماء عندما يعرفون كلمة أن يبدأوا بمعناها في اللغة العربية. Et les savants, comme habitude, en premier, lorsqu'ils veulent expliquer un mot, de l'expliquer dans son sens linguistique à la base, en arabe. Le mot salaf, en arabe, désigne tout ce qui est précédent, tout ce qui vient avant. Et a à son opposé le mot khalaf, qui veut dire tout ce qui vient après. Dans le Coran, on retrouve ces deux termes. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Nous fîmes d'eux des prédécesseurs et des exemples pour les autres. Et le mot خَلَفْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ الْآيَةَ Vint après eux une génération. Le verset fini. Les grands linguistes de l'islam ont donné leur définition de ce mot-là sur le même trait. قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة سلف السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق من ذلك السلف الذين مضوا والقوم السلف المتقدمون ابن فارس رحمه الله فصو معجم الذي لا يستغني عنه طالب العلم ce dictionnaire que l'étudiant ne peut dont l'étudiant ne peut se passer qui s'appelle Maqais al-Lugha nous dit que les mots qui ont comme origine les trois lettres sin, lam et fa indiquent tous, un avancement, le fait d'être en avant sur les autres et d'être, donc, avoir eu, être leur prédécesseur. الراغب الأصفهاني قال السلف هو المتقدم ومنه قوله تعالى فجعلناهم سلفا ويقال لفلان سلف كريم أي آباء متقدمون. Donc le même sens, on dit en arabe de quelqu'un Fulan lahu salafun karim. Donc quand on revient aux premières générations des arabes, lorsqu'ils se parlaient les uns aux autres, ils disaient d'un tel qu'il avait salaf karim, yani des ancêtres honorables. وقال ابن منظور رحمه الله السلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السبق والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح ابن منظور رحمه الله لسان العرب دي السلف sont ceux qui sont précédés parmi tes pères et tes proches dans ta famille qui sont donc avant toi et ont un mérite sur toi. C'est pour cela qu'on appelle la première génération de cette communauté les pieux prédécesseurs. Dans la sunna aussi ce mot est employé. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ car je suis pour toi le meilleur prédécesseur. Il a dit cela à sa fille Fatima radiallahu anha avant de mourir et il lui a annoncé qu'il la précéderait au paradis. Wa Ahmad rahmatullahi alayhi yarwi an ibn Abbas radiallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala li ibnatihi Zainab aw qala fi ibnatihi Zainab lamma matat الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان ابن مضعون lorsque la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam Zainab mourut le prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'adressant à elle une dernière fois lui dit الحقي rejoint ce pieux prédécesseur ce bon prédécesseur, Uthman ibn Maz'un, qui était mort avant elle. Donc ces textes-là font bien référence à l'emploi de ce terme dans les sources de l'islam et dans la langue arabe. Et ce n'est en rien un nouveau mot qui n'a que quelques décennies, voire siècles. Et ça, c'est le sens de base du mot salaf. Il fait référence à tout ce qui vient avant nous. Sinon, dans la terminologie religieuse, le mot salaf désigne الصحابة ابتداء رضي الله عنهم ويشاركهم في هذا اللفظ التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sinon, dans la terminologie religieuse, ce mot-là, ce terme-là indique, désigne les compagnons رضي الله عنهم ainsi que ceux qui les suivirent de la meilleure façon. Taba'an wa tiba'a, yani eux ils ont suivi les sahaba, les compagnons, cette génération là, et eux aussi par la suite furent suivis. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Tawbah yaqul was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan. Was-sabiquna al-awwaluna, les premiers à avoir devancé parmi ceux qui ont émigré. Cette appellation fait référence aux Mécois, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui crurent en lui à la Mecque et qui émigrèrent avec lui à Médine. Wal Ansar, ce qu'on traduit en français par les auxiliaires, ceux qui offrirent le gîte aux Mécois, Al Ansar, les Médinois. Et enfin, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, et ceux qui les suivirent de la meilleure façon. النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah عز وجل est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc on sait que ce terme-là, عند الإطلاق, lorsqu'on l'emploie catégoriquement, on l'entend dans la bouche des savants, on le trouve dans les livres as-salaf, as-salaf. Quand ce mot est employé sans qu'il ne soit précisé ni défini, il fait référence donc aux trois premières générations de l'islam, en commençant par les sahaba et les deux générations qui vinrent après eux. Et pour bien comprendre cette définition, il est important de désigner, de déterminer le sens de chacune de ces générations. Et pour celui qui veut savoir comment définir As-Sahabi, le compagnon, il doit retourner pour cela au livre de ce qu'on appelle Al-Mustalah, donc la terminologie du hadith. Et dedans on trouve que As-Sahabi huwa man ijtama'a bin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik wa in takhallalat bihi riddah على القول الراجح من أقوال أهل العلم. Les savants nous disent qu'un compagnon est quelqu'un qui s'est retrouvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment où il a cru en lui et il est mort croyant. Et on a choisi la définition qui dit ijtama'a bihi aw laqiyahu, qui s'est retrouvé avec lui ou bien qui l'a rencontré. On l'a préféré à l'autre définition qui dit man ra'a an-nabi, celui qui a vu le prophète, lishyanna min as-sahabati man kana a'ma. Pourquoi? Parce qu'il y avait parmi les compagnons des hommes qui étaient aveugles. Donc ils n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc préciser cette condition exclurait des personnes qui étaient des compagnons comme Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu. Donc se retrouve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment où on a cru en lui. Donc tous ceux qui l'ont rencontré sans croire en lui ne sont pas des compagnons. Et tous ceux qui ont cru en lui et l'ont rencontré mais ont apostasié et sont morts mécréants, ne sont pas des compagnons. Et là, sa troisième cas, c'est un homme qui rencontre le prophète alayhi salatu wassalam, qui croit en lui, qui apostasie et qui revient dans l'islam par la suite. Est-ce que lui c'est un compagnon ou non? Les savants ont divergé à ce sujet. Ibn Hajar wa ghayruhu rahmatullahi alayhi ont choisi qu'il restait un compagnon, comme c'est le cas de l'Ash'at ibn Qays radiallahu anhu, qui a apostasié après avoir cru au prophète et l'avoir rencontré alayhi salatu wassalam, mais qui s'est repenti et est revenu dans l'islam et mourut ainsi. Sahaba radiallahu anhum la ou adaduhum kathir wa qad yuqal annahum la yuhsawna adada illa annahu qil anna adadahum yasilu taqriban ila 114,000 واحد. En termes de nombre, on ne sait pas exactement combien de compagnons il y avait. Certains savants ont dit qu'il y avait à peu près, approximativement, 114 000 compagnons. Donc 114 000 personnes ont rencontré le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'ils croyaient en lui et moururent musulmans. Et le moment où le plus de personnes se sont retrouvées avec le prophète alayhi salatu wassalam était le jour du pèlerinage d'adieu, lors du sermon de Arafat, quelques mois avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En termes de fiabilité et de confiance, les compagnons radiallahu anhum atteignent le summum et le plus haut degré. Lorsque l'information vient d'un compagnon, on l'accepte automatiquement, même si on ignore de qui il s'agit. قال علماء الحديث إن الجهالة في الصحابة أو في الصحابي لا تضر. Que le fait qu'un compagnon soit inconnu, ce n'est pas un mal dans l'acceptation du hadith. C'est-à-dire que j'ai un sanad, une chaîne de transmission, où à la fin on nous dit عن رجل من الصحابة بدون تعيين اسمه, sans qu'on nous cite son nom. Une chaîne de transmission dans laquelle on nous dit à la fin, un homme parmi les compagnons a dit. Sans qu'on nous dise comment il s'appelle, ce n'est pas grave. Parce qu'à partir du moment où on sait que c'est un compagnon, son information, elle est acceptée. Ce qui n'est pas le cas avec les autres rapporteurs du hadith. وَمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةَ أي أصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والخامس هو الإمام أحمد رحمة الله على الجميع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الهلال يعني الهلال دخول شهر رمضان, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال الرجل نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. Donc le texte qui indique que même si le compagnon est inconnu, on accepte son rapport, son information. Ce hadith rapporté par les quatre traditionnalistes réputés qui sont Ibn Majah, Tirmidhi, Al-Nasa'i ou Abu Daoud, ainsi que l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhim, d'après Abdullah ibn Abbas, comme quoi un homme bédouin vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit j'ai vu le croissant de lune, c'est-à-dire qu'il a vu le croissant de lune qui indique l'entrée du mois de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu attestes que nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répondu oui. Pourquoi tu lui as répondu par la suite, est-ce que tu attestes que je suis ou que Muhammad est le messager d'Allah? L'homme a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal d'appeler les gens et de les prévenir, de les informer à ce qu'ils jeûnent demain. Donc il a pris en compte son information lorsqu'il s'est assuré qu'il était musulman. Les sahaba radiallahu anhum ont tous un mérite particulier et sont les meilleurs des musulmans. Plus que cela encore, ils sont les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers. Ils sont les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers. Et tous les prophètes à qui Allah a fait la révélation avaient avec eux des hommes qui les accompagnaient et qui ont cru en eux. Et de tous ces hommes-là, les meilleurs sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est min hayithul jumla. Ça c'est en général. Sinon, entre eux, il y en avait certains qui étaient meilleurs que d'autres. En termes de chronologie, avant de parler de mérite, les savants divergent sur qui est le premier à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal qawlu rajih wal ilmu inda Allah annahu ou annaha Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Les savants divergent sur qui est le premier à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'avis le plus juste, et Allah sait mieux, c'est qu'il s'agit de Khadija bint Khuwaylid, son épouse radiyallahu anha wa ardaha. Sinon, les savants disent que parmi les femmes, la première à avoir cru est Khadija. Parmi les hommes libres, le premier à avoir cru est Abu Bakr ibn Abi Quhafa As-Siddiq radiyallahu anhu. Parmi les hommes esclaves, le premier à avoir cru est Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Et enfin parmi les enfants, le premier à avoir cru est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al-jami'. Sinon, en termes de mérite, le meilleur d'entre eux à l'itlaq est Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali radiyallahu anhum ajma'in. Et il y a donc des degrés de supériorité entre guillemets entre les compagnons. Les meilleurs sont les 10 promis au paradis. Donc les 4 qu'on a cités, les 2 Sa'd, Abdurrahman ibn Awf, Abu Ubaidah ibn Abi al-Jarrah, Talha ibn Ubaidillah. C'est tout? Non, ça fait 10. 4 premiers, 2 Sa'd et les 4 autres. Ensuite, on a As-Sabiqoun al-Awwaloun. Donc ensuite, on a ceux qui ont donc été les premiers à croire parmi les Mekwa. Et ils sont cités dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fait référence dans ce verset aux muhajirin, aux croyants qui ont émigré, les Mekwa, en disant الفقراء, للفقراء, aux pauvres parmi ceux qui ont émigré, ceux qui furent chassés de chez eux, et ceux à qui on confisquait les biens, ceux qui recherchaient l'agrément d'Allah, ainsi que sa grâce, et ceux qui viennent au secours d'Allah et de son messager, voici certes les véridiques. On a en seconde position, Al-Ansar, ceux qui ont été cités dans le verset suivant, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ceux qui recherchaient la demeure et la foi auparavant aiment ceux qui émigrent vers eux. et ils ne ressentent aucun mal, aucune gêne dans leur poitrine quant à ce qu'ils ont donné. Quand les émigrants sont venus chez eux, ils leur ont donné de ce qu'ils possédaient. Et ça n'a généré en eux aucune gêne. C'est pas comme toi quand tu donnes quelque chose, tu ressens le manque. Ça te gratte. Même hatta des fois tu as une voix dans ta tête qui te dit, pourquoi j'ai donné ça? Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'il y a une grande famine, même s'il y a un grand besoin. Et celui qui se préserve de l'avarice de son âme fera, seront certes les gagnants. Donc ce verset fait référence aux Ansar, aux Médinois. On a après ce qu'on appelle Ahlu al-Bay'ati ou Ahlu Bay'ati al-Ridwan, qui sont cités dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Ce sont 300 et quelques compagnons qui accompagnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam la 6e année de l'Égypte pour accomplir une umrah. Mais ils furent stoppés par les Mécois qui ne les laissèrent pas accomplir cette umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan radiallahu anhu à la Mecque afin de négocier avec les Mécois pour les laisser faire la umrah. Mais Uthman s'est attardé là-bas à un point où les gens croyaient qu'il fut tué par les Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a... On va faire du son. C'est quoi, je continue là, j'arrête. Je me repose. Guadeloupe, non. Ça m'arrive souvent, je suis habitué. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qui étaient avec lui, qui vient avec moi qu'on aille venger la mort de Uthman, qui me prête allégeance afin qu'on aille venger la mort de Uthman. Et tous les compagnons qui étaient avec lui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller venger la mort de Uthman, mais il s'avère que Uthman n'était pas mort et il est arrivé par la suite. Et ce verset fait référence à ce pacte d'allégeance qu'on appelle Bay'atul Ridwan, l'allégeance de la satisfaction, de l'agrément. Donc tous ces compagnons-là, 300 et quelques, Allah tabaraka wa ta'ala a immortalisé leurs gestes dans le Coran en stipulant qu'ils étaient satisfaits d'eux lorsqu'ils ont prêté allégeance à ce moment-là. On a ensuite le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Donc Allah il fait une distinction entre les musulmans qui se sont convertis à l'islam avant le fait. Le fait, c'est-à-dire la conquête de la Mecque, qui eut lieu la 9e année de l'Égypte. Donc les musulmans qui rentrèrent dans l'islam avant cet événement sont meilleurs que ceux qui rentrèrent dans l'islam après cet événement. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Donc Allah dit, la yastawi minkum, ne sont pas égaux parmi vous ceux qui dépensèrent leur argent avant la conquête et combattirent avant cela aussi. Cela sont meilleurs que ceux qui dépensèrent leur argent après la conquête et combattirent. Donc là on voit qu'il y a distinction dans le mérite entre les compagnons umouman en général qui rentrèrent dans l'islam avant cet événement et ceux qui les suivèrent après cet événement. Et en général, donc là c'est les tabaqat entre les sahaba, ce sont les échelons entre les compagnons radiallahu anhum. Et en général, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَكُلًّا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Et à tous, Allah subhanahu a promis الْحُسْنَى, يعني الجنة, le paradis. الْحُسْنَى, يعني la promesse véridique, la belle promesse, c'est-à-dire le paradis. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Donc dans ces versets, on constate que chez les compagnons radiallahu anhum, il y a des darajat, des degrés. Eux tous sont meilleurs que les autres. Et entre eux, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Sinon, personne après eux ne peut atteindre leur degré de par cette qualité qui est la leur, d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le ta'rif qu'on a donné, dans la définition qu'on a donnée, on a dit man istama'a bin nabi alayhi salatu wa sallam mu'minan bih, celui qui a rencontré le prophète, qui s'est retrouvé avec lui, walaw marra, ne serait-ce qu'une fois. À savoir que les Arabes لا يستعملون لفظة الصحابي إلا لمن طالت ملازمته بصاحبه. Les Arabes n'emploient le terme sahabi en général que lorsque quelqu'un est resté très longtemps avec un autre. فحين إذن يقال هذا صحابي أو صحابي فلان أو صاحب فلان. À ce moment-là, on dira qu'un tel est le compagnon d'un tel lorsqu'ils sont restés très souvent, très longtemps ensemble. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حيث من استمع به ولو مرة صار صحابيا له. Et ça fait partie des caractéristiques particulières du prophète صلى الله عليه وسلم, à ce que quelqu'un, en ne le rencontrant qu'une seule fois, soit considéré comme étant son compagnon. Ça c'est pour les compagnons. On a dit en second التابعون. التابعون, on pourrait traduire ça en français par les suiveurs, ceux qui les suivirent. Et on définit le tabi'i comme étant kullu man laqiya sahabiyan mu'minan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mata ala dhalik. C'est toute personne qui a rencontré un compagnon tout en étant croyant, bien sûr, tout en étant musulman, et est mort ainsi. Donc chaque personne qui a eu le privilège de rencontrer un compagnon alors qu'il est musulman et qui est mort musulman sera considéré comme étant un tabi'i. Et les tabi'i sont encore plus nombreux, bien entendu, que les compagnons radiyallahu anhum. Fala yuhsawna adada. On ne peut pas les dénombrer. Cependant, on les classifie en trois grandes catégories. On a Tabaqatul Kubra, Wal Wusta, Wal Sughra. On a la grande catégorie, du moins la catégorie des grands tabi'in, celle des moyens et celle des petits. Qui sont-ils? Tabaqatul Kubra, Hiya, Aw Ta'ni, من التابعين من كثرت روايته عن الصحابة رضي الله عنهم. Ce sera un homme qui rapporte beaucoup d'après les compagnons رضي الله عنهم. La plupart des informations qu'il rapporte, des hadiths qu'il rapporte, il les rapporte d'après les compagnons رضي الله عنهم, comme Saïd ibn al-Musayyib ou Alqama, ou encore Urwatu ibn Zubayr rahmatullahi alayhi. Dans le Wusta, donc la catégorie médiane concerne ceux alladhina kathurat riwayatuhu an as-sahabati wa an kibar at-tabi'i. Ce sont des hommes qui rapportent autant des compagnons que des grands tabi'in, ce qu'on a cité tout de suite, comme Al-Hassan al-Basri ou Muhammad ibn Sirin ou encore Al-Zuhri, Ikrimah, Mujahid et d'autres rahmatullahi alayhi. Et enfin la catégorie des petits entre guillemets tabi'in, man kanat ou man kana aktharu riwayatihim an at-tabi'in wa lam yaltaqu illa bil adad al qalil min as-sahaba. Et la dernière catégorie concerne les tabi'in qui rapportent en général des grands tabi'in de la première catégorie et qui n'ont rencontré que très peu de compagnons, comme Ibrahim al-Nakhai, ou Abu Zinad, ou encore Yahya ibn Sa'id, rahmatullahi ala al-jami'. Donc les tabi'in ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont rencontré des compagnons. Et plus ils en ont rencontré, et plus ils rapportent d'eux, et plus leur degré sera élevé. Et enfin, la troisième catégorie, Atba' al-Tabi'in, la génération d'après, ce sont les gens qui ont été donc formés, qui ont été les élèves des Tabi'in, et qui n'ont pas rencontré de compagnons. Et ils sont encore plus nombreux que les deux premières catégories. Les savants disent que le dernier des salafs, c'est l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i, un des quatre traditionalistes les plus réputés, qui mourut dans l'année 303 de l'Égypte. Et de là, on constate que la fin des salafs, chronologiquement parlant, s'arrête à la fin du troisième siècle. Et là, on repense au hadith rapporté par Ibn Mas'ud et d'autres compagnons, fi sahihayn wa ghayrihima, hadith mutawatir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, qarni. Ceux qui les suivent, ceux qui viennent après, ensuite ceux qui viennent après. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à trois, entre guillemets, générations, trois siècles. Et la fin de ces siècles concerne la fin du troisième siècle. Pour revenir aux sahaba, un point important que j'ai omis de citer, le dernier sahabi qui est mort, beaucoup de gens croient qu'il s'agit d'Anas ibn Malik. Wa hada ghalat. Akhir as-sahabati mawta huwa Amir ibn Qais al-Layth. Il est mort à la 110e année de l'Hégire. Pourquoi est-ce qu'on parle? Non, c'est pas Amir ibn Qais, c'est Amir ibn Watila al-Layth. Pourquoi est-ce qu'il est important de citer qui est le dernier compagnon à être mort? Et quand surtout? Il est mort à la 110e année de l'Hégire. Et un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ara'aytakum laylatakum hadih, fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa liyawmu ala zahriha ahad. Quand il a dit alayhi salatu wa sallam, et Jabir ibn Abdullah dans Sahih Muslim, il dit qu'il a dit cela un mois avant de mourir, alayhi salatu wa sallam. Il a dit: avez-vous vu cette nuit? Il faisait nuit lorsqu'il leur a dit cela. Avez-vous vu cette nuit? Eh bien, 100 ans plus tard, à partir de cette nuit, personne de ceux qui sont présents aujourd'hui sur terre ne seront encore vivants. Donc à partir de cette nuit dans laquelle le prophète leur a parlé, alayhi salatu wassalam, il leur a dit que dans 100 ans, personne de ceux qui sont vivants aujourd'hui ne le seront après ces 100 années. Et Amr ibn Wasil al-Layth est mort à la 110e année de l'Hégire. Donc 100 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à quoi ça sert de savoir qui est le dernier sahabi à être mort? Qui peut me répondre? Là.
À partir de là, on va compter les prédécesseurs.
C'est une bonne réponse, mais c'est pas celle que j'attendais. Là. C'est à quoi ça sert de savoir qui est le dernier sahabi à être mort? شيل فائدة في معرفة من هو آخر الصحابة موتى.
أمم.
C'est-à-dire, mais encore. Ça commence bien. Maintenant, finit bien. Et voilà. C'est pas un mal.
Mm-hmm.
C'est ça, mais c'est mal formulé. L'akh, profond.
Pour la chaîne de transmission des hadiths, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a connu quelqu'un d'autre et qui est né après cette date-là, c'est impossible de n'avoir pu connaître, puisqu'il est mort avant.
C'est ça aussi, mais c'est pas formulé comme je veux. Mais moi, c'est ça. C'est pour que celui qui prétendra être un compagnon après cela, c'est pas possible. Parce que c'est le dernier à être mort. C'était ça, ce que vous avez dit. Après, je suis difficile dans la formulation. Al-Muhim, donc ça a son importance. Ça a son importance à un point où même hatta les ulama du hadith, mais c'est pas le mawdou', ils ont cité tous les derniers compagnons à être morts en fonction de la mantiqa où ils habitaient, en fonction de la région où ils habitaient. À Mecca, et d'ailleurs à Amr ibn Wasil al-Laythi, c'est le dernier à être mort en général, et à Mecca aussi. Après, dans d'autres manatiq, comme on a dit, c'était Anas ibn Malik, et d'autres encore, Fisham, Awil Kufa, et Wamash Vahadalik, on a, dans chaque région, on sait quel est le dernier compagnon qui est mort. Pour qu'on sache, au cas où quelqu'un vient après, il nous dit, ah, moi je suis un compagnon, d'où tu viens toi? Kadalik, on a un qism mustaqil, on a une catégorie indépendante qui concerne les gens qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était vivant. Ils ont cru en lui, mais ils ne l'ont pas vu. Mais ils ne l'ont pas vu. Ces gens-là, on les appelle al-mukhadramoun. Al-mukhadram, al-dhar. Comme al-Najashi, le roi éthiopien, qui était chrétien, mais qui est mort musulman. Qui s'est converti à l'islam par la suite, bien sûr. Ou bien Uwais al-Qarni. On a aussi l'autre mas'ala, on reste dans le mustalah, les enfants qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ce qu'on appelle sinnu at-tamyiz. Sin at-tamyiz, l'âge de la raison, pas la puberté. Et quand je dis la raison at-tamyiz, c'est le fait de distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc, est-ce qu'ils sont considérés comme étant des compagnons? Ammatu al-muhaddithin يعتبرونهم من الصحابة. La majorité des muhaddithin, comme Ibn Hajar, Al-Zahabi et d'autres, les considèrent comme étant des compagnons, mais il y a un khilaf dans la mas'ala, comme Ibn Abdil Barr et d'autres ne voyaient pas qu'ils étaient des compagnons. On a un exemple avec Muhammad ibn Abi Bakr, radiallahu anhuma, le fils d'Abu Bakr qui est né la 9e année de l'Hégire lorsque le prophète allait faire le pèlerinage, alayhi salatu wassalam. Donc il avait même pas un an quand le prophète est mort. Est-ce que Muhammad ibn Abi Bakr c'est un compagnon? Donc la majorité des savants ils voient que oui, mais ce qui est étrange, c'est que comme il n'était pas assez grand pour comprendre le hadith, ou bien comprendre ce qu'il y a autour de lui, eh bien son hadith, il sera considéré comme étant mursal. Mursal, c'est-à-dire qu'il manquera un élément entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il ne le cite pas. Donc il peut être possible qu'il ait rapporté le hadith d'un tabi'i kabir, tout comme il n'ait pu le rapporter d'un autre compagnon. Donc il faut aller chercher dans la chaîne de transmission d'où il a ramené le hadith. Al-Muhim, c'était des matsaïl istiradiyya, des questions qui ont un rapport avec le sujet. Ça, c'est pour bien cerner c'est qui le sahabi. Et c'est aussi pour montrer diqqatu ahli al-ilm fi taqsim al-nas. La précision des savants quand ils classent les gens dans des catégories précises. Dans le but, à la fin, quand un hadith leur parvient, de savoir qui l'a amené. As-salaf sont donc ces trois catégories qu'on a citées. Et ce sont ceux qui sont cités dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, khayrun nas, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Et là, le prophète, il a stoppé cette tête qui a ce compliment envers ces trois premier siècle, et il est passé donc à d'autres gens qui eux sont mauvais, et qu'il a cité précisément des gens qui jureront avant qu'on leur demande de jurer. Et ça, c'est une mauvaise chose. Des gens qui jureront avant qu'on leur demande de jurer. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, tu jures. Sans qu'on ait besoin de te le demander. Et ça, ce n'est pas une des sifat des gens pieux. Hatta Shafi'i, rahmatullahi alayhi, disait que pendant 30 ans, je n'ai pas juré une fois, que ce soit pour mentir ou dire la vérité. Trop jurer fait baisser la fiabilité de la personne. Et moins tu jures, et plus on te croira. Car quand tu jures rarement, le jour où tu vas jurer, les gens vont dire « Ah, s'il jure, c'est que c'est important. » Quand tu as quelqu'un qui jure à tout va, comme c'est le cas malheureusement pour la plupart d'entre nous, je ne sais pas c'est comment chez vous ici, chez nous, pour un oui, pour un non, vas-y. En plus, il jure sur tout et n'importe quoi. La vie de ma mère, la vie de mon père, la vie de ma grand-mère, un jour, il va jurer sur son chat, Valek. Il jure sur tout et n'importe quoi. Ou la... je ne sais quoi d'autre. Donc, faisons attention à ne pas faire partie de ces gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant des mauvaises personnes. Pour revenir au salaf, il y a une très belle parole d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah qu'il a dit dans la Ta'if al-Ma'ad, un livre magnifique que l'on conseille à tout le monde de lire. Dans ce livre-là, Ibn Rajab rahimahullah fait un ta'liq, un commentaire sur le hadith qu'on vient de citer, Khayrun Nas. Parce que le prophète dit alayhi salatu wasalam, Khayrun Nas, les meilleurs des gens. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les sahaba, les salaf, sont les meilleurs des gens depuis qu'Allah a créé la création. Après, les prophètes et les messagers. Qala Ibn Rajab rahimahullah, من أين في الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي ما سلك طريقا إلا هرب الشيطان من ذلك الطريق أو عثمان الصابر على مر الضيق أو علي بحر العلم العميق أو حمزة أو العباس أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين أو مثل ابن عوف وأبي عبيدة ومن مثل الاثنين إن شبهتم بهم أبعدتم القياس من أين في زهاد الأمم مثل أويس أو في عبادهم مثل عامر بن قيس أو في خائفهم مثل عمر بن عبد العزيز أفيهم أعلى من الحسن البصري وأنبل أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل أو سفيان الثوري الذي بالخوف والعلم تسربل أو مثل أحمد الذي بذل نفسه لله وسبل. Donc Ibn Rajab rahimahullah nous dit, où dans les autres communautés y a-t-il quelqu'un comme Abu Bakr al-Siddiq, ou bien comme Omar, celui qui lorsqu'il prenait un chemin, le démon fuyait et en prenait un autre lorsqu'il le voyait. Ou bien comme Uthman, cet homme qui patientait même dans les moments les plus difficiles. Ou bien comme Ali, cet océan de science au fond profond. Ou bien comme Hamza, ou bien l'Abbas. Est-ce qu'il y a dans les autres communautés des gens comme Talha et Az-Zubayr, les deux compagnons, les deux compères, ou encore Ibn Awf et Abu Ubaïda, et qui est comme ces deux-là? Si jamais vous comparez quelqu'un à eux, vous serez allé bien loin. Où y a-t-il dans les autres communautés des ascètes comme Uwais Al-Qarni? Où y a-t-il dans les dévots des autres communautés des gens comme Amir ibn Qays? Est-ce qu'il y a dans ceux qui ont peur d'Allah dans les autres communautés quelqu'un comme Omar ibn Abdelaziz, Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus haut et de plus intelligent qu'Al-Hassan al-Basri? Ou encore quelqu'un qui a peur, qui délaisse des choses de peur à ce qu'elles lui soient, nuisibles, même si elles ne sont pas interdites, comme Muhammad ibn Sirin? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Soufiane al-Thawri, celui qui avait revêtu comme vêtement celui de la crainte et de la science? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Ahmad ibn Hanbal, celui qui avait sacrifié son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc là, Ibn Rajab rahimahullah a pris des noms parmi les salafs de ceux qui sont les plus connus et réputés pour leur science et leur piété, et il demande où est-ce que dans les autres communautés il y avait des gens comme cela. Il y a même des savants qui nous disent, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans son explication de l'Aqid al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit qu'Allah Ta'ala a porté secours et a assisté chacun de ses prophètes par des miracles, par des grands miracles, comme on le sait avec Nathalan Ibrahim alayhi salam, qui fut jeté dans le feu et qui ne fut pas brûlé, ou encore Moussa alayhi salam, devant qui la mer s'est ouverte en 12 voies. Pour chaque tribu des tribus de Banu Israël, une voie dans la mer. فَالْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ أَوْ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ كُلُّ فِرْقٍ. Pour chaque tribu de Banu Israël, il y avait une voie dans la mer qui s'est ouverte. Isa ibn Maryam alayhi salam, donc rendez la vue à l'aveugle, guérissez le lépreux, rendez la vie aux morts, façonnez avec de l'argile un oiseau, et Allah y mettait l'âme, tout cela par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa permission. Les savants nous disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut le prophète, donc est le prophète qui fut assisté par les plus grands miracles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous disent qu'il n'y a pas un miracle qui fut donné à un prophète précédent sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en fût assisté aussi avec. Et ceux qui n'ont pas été rapportés d'après lui, eh bien on les trouve chez des adeptes, des musulmans, des hommes qui ont suivi sa communauté, qui sont dans sa communauté. Et ça, vous trouvez ça dans les chapitres des livres de Aqaïd, qu'on appelle Karamat al-Awliya, chapitres que les savants, dans lesquels ils réunissent, ils regroupent des miracles que des saints ont accomplis. Comme avoir marché sur l'eau, comme ceci a été rapporté d'après certains sahaba radiallahu anhum, avec leur monture. Ou encore, être jeté dans le feu sans que ça ne fasse rien, comme ceci a été rapporté d'après Abu Muslim al-Khawlani, lorsqu'il fut jeté dans un feu par un faux prophète dans lequel il a refusé de croire. Il en est sorti sans que rien ne lui ait arrivé. Et les exemples sont nombreux. Allah Ta'ala, il a donné aux musulmans qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam des miracles comparables à ceux qu'il a donné aux prophètes, aux messagers qui vinrent avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ces miracles-là ont été accomplis par des hommes de cette communauté, alors ils reviennent tous au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans cela, on a un moyen de plus d'affirmer que Muhammad ibn Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, khayrul bashari qatibatan, est le meilleur des êtres humains, est absolument le meilleur des êtres humains. En lui-même, dans le choix qu'Allah a fait de lui et dans les hommes qui l'ont accompagné et suivi. Maintenant, il nous reste à voir comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ces trois siècles, dans quelles circonstances, dans quel domaine, de quelle façon. Parce que le prophète a dit khayrun nas, les meilleurs. Donc comment est-ce que ces salafs étaient-ils les meilleurs? Et ça, c'est donc le sujet qu'on abordera dans la seconde conférence qu'on fera après l'Asr, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك الله فيكم